Je vous invite à lire la parole de Dieu. C'est dans l'épître de Jean. Nous poursuivons notre méditation de cette épître et nous lirons aujourd'hui les 5 premiers versets de chapitre 5 de la première épître de Jean. Première épître de Jean, chapitre 5, et nous lirons ensemble les versets 1 à 5. 1 Jean 5. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui est fait naître aime aussi celui qui est né de lui. À ceci nous savons que nous aimons les enfants de Dieu quand nous aimons Dieu et que nous agissons selon ses commandements. Car l'amour de Dieu, c'est que nous gardions ses commandements, et ses commandements ne sont pas un fardeau, parce que tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde, et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. Qui est vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Jusqu'ici, la parole de Dieu pour nous. Jean commence notre texte par rappeler ces trois qualités, ces trois marques qui distinguent clairement le vrai chrétien, celui qui c'est-à-dire qui est né de Dieu, celui qui est passé par la nouvelle naissance. Six marques sont la foi, l'amour, l'obéissance. En effet, Jean a déjà abordé ces qualités au chapitre 2. Et ensuite, dans le chapitre qui a suivi, il a abordé deux d'entre elles, l'obéissance et l'amour. Et dans le chapitre suivant, c'est-à-dire le chapitre 4, il a abordé la foi et l'amour. L'amour se trouve ainsi abordé aussi bien au chapitre 3 qu'au chapitre 4. Cela montre son importance. Cela montre aussi la centralité de l'amour dans la foi chrétienne. Dans le début de ce chapitre, Jean donc reprend ces trois qualités, les regroupe avant de terminer son épître et il montre la relation qui existe entre ces trois qualités qui caractérise le chrétien. Ce qui est la foi, l'amour, l'obéissance, c'est la nouvelle naissance. C'est le fait de naître, d'être né de Dieu qui nous conduit à la foi, qui nous conduit à aimer Dieu et les membres de la famille de Dieu, c'est-à-dire les frères et sœurs, et à obéir à ses commandements. Foi, amour et obéissance correspondent en effet à la croissance normale qui suit la nouvelle naissance, cette nouvelle naissance dont Jésus a parlé avec Nicodème dans l'évangile de Jean au chapitre 3. La foi. Quiconque croit en Jésus, croit que Jésus est le Christ, est né de Dieu, écrit Jean au premier verset de notre texte, au début du premier verset de notre texte. C'est cette traduction qu'on retrouve dans la plupart des versions françaises. Or, cette traduction risque de ne pas mettre en évidence quelque chose d'important qui ressort clairement dans le texte original. Le mieux, c'est de traduire plutôt « quiconque croit que Jésus est le Christ a été engendré de Dieu ou par Dieu ». Cela permet de faire ressortir le lien existant entre la foi en Christ et la nouvelle naissance, le fait d'être né de Dieu. La nouvelle naissance, la naissance en Dieu précède en effet la foi en Christ. En d'autres termes, notre foi présente est le résultat et donc la preuve de notre expérience de la nouvelle naissance par laquelle nous sommes devenus et nous demeurons toujours enfants de Dieu. Parce que nous sommes nés de Dieu par l'Esprit Saint, que nous reconnaissons et que nous croyons que Jésus de Nazareth, homme vécu parmi les hommes, est réellement le Christ, le Fils de Dieu, existant depuis toujours et depuis toute l'éternité. C'est cela que Jean a rappelé d'ailleurs au verset 13 du chapitre qui précède, en disant « À ceci, nous savons que nous demeurons en Dieu, comme lui en nous, ce qu'il nous a donné de son esprit. » C'est par l'Esprit de Dieu que nous venons à confesser la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Seul le Saint-Esprit nous permet de reconnaître spirituellement et profondément, comme je l'avais aussi souligné dans les messages précédents, que le Christ est le Messie, le Fils de Dieu vivant. C'est aussi l'Esprit de Dieu qui nous permet de confesser que Jésus est le Seigneur, comme le dit l'apôtre Paul dans la première épître aux Corinthiens. Nous ne pouvons pas parvenir à cette connaissance et reconnaissance de l'identité de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il est vraiment pleinement Dieu, pleinement homme, si ce n'est par l'aide, par l'éclairage de l'Esprit de Dieu qui agit en nous. Dieu nous a envoyé son Esprit, en effet, pour rendre témoignage de Jésus-Christ, de ce qu'il est réellement. Je me rappelle, lors de mes premiers pas de la conversion, enfin vers l'Évangile, il m'était très difficile de concevoir comment se fait-il ce Jésus que je lisais dans l'Évangile, qui a vécu à Nazareth, un prophète, comment se fait-il qu'il est en même temps Dieu qui est de toute l'éternité. Il y a eu un petit moment de flottement, de réflexion, de recherche, mais je me rappelle qu'un jour, j'ai vécu une expérience avec le Seigneur, quelque chose de particulier s'est produit dans ma vie que personnellement j'identifie à cette nouvelle naissance dont on parle, et qui m'a permis simplement de reconnaître que Jésus-Christ, en effet, pleinement Dieu, pleinement homme, même si je ne comprenais pas tout, même si je ne savais pas tout, comment ces deux natures de notre Seigneur Jésus-Christ s'articulaient pleinement ou s'articulent totalement. Grâce à cette expérience que j'identifie personnellement à cette nouvelle naissance, parfois elle peut être, bien sûr, on peut la vivre d'une manière consciente, mais on peut la vivre aussi d'une manière complètement inconsciente. Mais le fait d'arriver à reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur montre bien que nous avons vécu cette expérience, que nous demeurons à partir de ce moment-là dans la foi en Christ, que nous reconnaissons comme pleinement Fils de Dieu, pleinement Dieu venu, devenant pleinement homme pour s'identifier à nous et payer le prix de notre désobéissance. Si aujourd'hui donc nous pouvons connaître et reconnaître, connaître Dieu et reconnaître que Christ, qu'il est Seigneur et Sauveur qu'il a envoyé, c'est grâce à l'œuvre de l'Esprit dans notre cœur, souvent très discrète, mais parfois elle peut être aussi spectaculaire, mais souvent très discrète, mais très efficace, qui nous permet de parvenir à cette reconnaissance, à cette connaissance de l'être de notre Dieu. Bien sûr, il est important de continuer à chercher, pour ceux qui sont en recherche parmi nous, de continuer à lire et à relire les évangiles et à lire les livres qui parlent de Jésus-Christ, à discuter de qui est vraiment Jésus-Christ. Mais il me semble, une fois parvenu à notre connaissance de Jésus-Christ, à la confession qu'il est vraiment le Seigneur et le Sauveur de notre vie, nous devons être vraiment lucides que nous sommes parvenus grâce à l'Esprit de Dieu qui s'est servi aussi, entre autres peut-être, de cette recherche. Mais c'est l'Esprit de Dieu, c'est naître de l'Esprit, comme dit Jésus à Nicodème, qui nous rend des enfants de Dieu. Et suite à cette nouvelle naissance, nous reconnaissons le Fils unique de Dieu, par qui nous devenons enfants de Dieu et par qui nous pouvons aussi désormais appeler Dieu notre Père. La nouvelle naissance donc nous conduit à reconnaître par la foi le Christ Jésus, Fils éternel de Dieu. La nouvelle naissance nous conduit aussi à aimer Dieu et les frères et sœurs dans la foi, c'est-à-dire ceux qui sont nés de lui, avec lesquels nous formons désormais aussi une seule famille, la famille de Dieu. Quiconque aime, celui qui fait naître, aime aussi celui qui est né de lui. Il y a là un principe simplement naturel qui consiste à dire que celui qui aime Dieu, qui fait naître, ne peut que aimer le frère ou la sœur qui sont nés de Dieu. Celui qui aime le Père ne peut que aimer ses enfants. Le verset 2 indique clairement l'implication inévitable entre l'amour de Dieu et l'amour des enfants de Dieu. À ceci, nous savons que nous aimons les enfants de Dieu quand nous aimons Dieu, écrit Jean au verset 2 de notre texte. Donc, impossible d'aimer Dieu sans aimer les enfants de Dieu. De même, impossible d'aimer les enfants de Dieu sans aimer Dieu. Ces deux amours sont étroitement liés au sein de la famille de Dieu que nous formons. C'est cet enseignement que Jean aussi avait souligné au chapitre précédent avec une clarté qui rend la vue même au plus aveugle de tous les chrétiens, c'est-à-dire le plus aveugle, celui qui pourrait se dire « j'aime Dieu que je ne vois pas et je n'aime pas le frère que je ne vois pas ». Jean, il dit simplement, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il déteste son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Voilà pourquoi l'amour de Dieu implique l'amour des frères et sœurs. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons Dieu si nous éprouvons de la haine envers les personnes que Dieu lui-même a choisies et qui deviennent de ce fait des frères, des sœurs, des membres de la famille de Dieu. Certes, certains frères, il faut le reconnaître, certaines sœurs, il faut le reconnaître, sont beaucoup plus aimables que d'autres. Certains donnent plus envie d'aller vers eux, de développer une relation avec eux, et d'autres peut-être, au contraire, repoussent davantage. Mais est-ce que Dieu, est-ce que c'est une raison pour ne pas les aimer? Est-ce que Dieu s'est trompé d'avoir choisi ces personnes que nous pourrions juger justement difficiles ou à problème? Ne pas aimer les enfants de Dieu reviendrait simplement à contester à Dieu le choix de Dieu, son choix. C'est un choix de telle personne ou de telle personne. Cela reviendrait à remettre en cause ce choix de Dieu pour former cette grande famille spirituelle qu'est l'Église. Voilà donc pourquoi il nous faut faire attention, me semble-t-il, au regard que nous posons sur les frères et sœurs, au regard que nous posons sur les frères et sœurs et à la valeur que nous accordons indépendamment de ce qu'ils font ou de ce qu'ils ne font pas. En effet, certains frères peuvent avoir une facilité extraordinaire à critiquer trop facilement les autres chrétiens, qui pourtant sont nés ni du sang, comme dit Jean, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. C'est ce que Jean indique au premier chapitre de son évangile. Il y a deux dimanches de cela, j'ai prêché dans une église un dimanche après-midi, et à la fin du culte, j'ai entendu quelqu'un parler, critiquer vraiment très violemment les chrétiens en France. Je pensais que ça pourrait arriver, hein, qu'il avait des raisons valables de le faire. Et donc je me suis approché un peu de lui pour savoir un peu plus ce qu'il reproche pour les chrétiens en France. Initialement, je pensais qu'il avait quelques différences juste avec quelques frères, mais il généralise, ce qui peut nous arriver à tous, il n'y a pas de souci. Mais en discutant avec lui, je me suis rendu compte qu'il ne vit même pas en France, qu'il vit à l'étranger. Et en discutant, peut-être il a lu 10 choses, j'en sais rien, peut-être il a vu 10 choses, mais en discutant avec lui, je me suis rendu compte qu'il n'avait vraiment aucune raison, qu'il n'y avait aucun argument qu'il avançait, et j'étais vraiment très surpris par cette facilité de pouvoir porter comme ça un jugement sur les chrétiens avec une telle facilité et sans avoir de raison qui pourrait justifier de tels propos. J'ai attiré son attention d'une manière très très sévère en lui disant « Mais fais attention, ne joue pas avec le feu. Ces enfants, ces chrétiens ne sont pas le fruit de ton choix. Donc il faut faire vraiment très très attention lorsque tu parles des chrétiens, lorsque tu parles des enfants de Dieu, parce qu'ils sont nés de Dieu. » Et justement, en préparant un petit peu ce message, cela m'a rappelé cette discussion que j'ai eue avec ce brave frère. Bien sûr que nous pouvons être parfois difficiles et c'est normal que nous puissions nous encourager mutuellement, nous corriger mutuellement. Cela, ça fait partie aussi des instructions que le Seigneur nous a laissées. Bien sûr que nous pouvons être parfois difficiles et parfois insupportables. Bien sûr que nous pouvons estimer et à raison qu'un tel frère ou une telle sœur est difficilement aimable. Mais en même temps, nous ne devons pas oublier, me semble-t-il, que nous évoluons et nous avançons dans la foi. Et par conséquent, celui qui est difficilement supportable aujourd'hui peut être simplement demain le meilleur d'entre nous. Et en plus, nous qui pouvons penser que nous sommes aimables aujourd'hui, nous ne devons pas, me semble-t-il aussi, oublier que nous ne l'avons pas toujours été. Certainement, des autres frères et sœurs nous ont aimés malgré toutes les raisons que nous leur donnions de ne pas le faire. Pourquoi faire tant d'efforts pour nous aimer mutuellement, pour aimer la famille de Dieu, pour aimer les enfants de Dieu? Parce que ne nous aimons pas parce que, pour ce que pardon, nous faisons, ou pour ce que nous ne faisons pas, mais nous nous aimons pour ce que nous sommes. Nous sommes enfants de Dieu, choisis par Dieu et demeurons en Dieu. Et c'est la raison principale, même fondamentale, pour laquelle nous sommes appelés à nous aimer mutuellement. Nous nous aimons parce que Dieu aussi répand son esprit dans notre cœur, par son esprit. Oui, répand son amour dans notre cœur par son esprit, ce qui nous rend justement capables d'aimer aussi bien Dieu, mais aussi les frères et sœurs, le prochain. Et enfin, nous aimons les frères et sœurs, même ce que nous pourrions estimer plus difficile, parce que nous croyons que celui qui a commencé simplement son œuvre en nous l'achèvera pour le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, nous nous voyons, nous sommes invités à nous voir comme des petits Jésus déjà accomplis, au potentiel, hein, donc en devenir, mais dès à présent, comme accomplis. Le Seigneur achèvera cette œuvre en nous, cette œuvre de transformation par son Esprit Saint. Aimer Dieu donc conduit à aimer naturellement les autres, à aimer. Aimer les autres montre simplement que nous aimons aussi notre Dieu. Aimer Dieu nous conduit aussi à agir selon son commandement. C'est ce que Jésus avait déjà indiqué à ses disciples. Celui qui m'aime, dit Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 14, c'est celui qui retient mes commandements, il les applique. Jean associe très clairement l'amour de Dieu au commandement, à l'obéissance au commandement de Dieu. Rien ne peut remplacer l'obéissance à la parole de Dieu, au commandement de Dieu. Rien ne peut remplacer l'obéissance que Dieu, à la volonté de Dieu, exprimée dans sa parole. Et dans le serment sur la montagne, et Jésus le dit très clairement, ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui vont hériter le royaume de Dieu, mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Et d'ailleurs, il poursuit toujours dans le serment sur la montagne, Matthieu 7 par exemple, en disant que rien ne pourra remplacer l'obéissance à la parole de Dieu. Il énumère un certain nombre d'activités religieuses, comme l'exorcisme par exemple, comme les dons spirituels, comme les miracles. Tout cela ne pourront pas remplacer l'obéissance à la parole de Dieu. Sans l'obéissance à la parole de Dieu, nous avons beau réaliser de belles œuvres, nous ne pouvons prétendre connaître vraiment l'amour de Dieu. Aimer Dieu, c'est chercher à faire ce qu'il aime. Faire ce qu'il aime n'est autre qu'obéir à ce commandement. Et au cœur de son commandement, de ses commandements pour nous, il y a celui d'aimer Dieu et celui d'aimer le prochain, comme Jean l'avait déjà rappelé au chapitre 2 de cet épître. Aimer est le commandement laissé par le Seigneur lui-même à ses disciples. Aimez-vous comme je vous ai aimé, voici le commandement que je vous laisse. Aimez-vous les uns les autres. Jean précise à la fin de ce verset 3 que les commandements du Seigneur, les commandements de Dieu ne sont pas un fardeau. Les commandements de Dieu ne sont pas comme toutes les lois des autres religions qui privent, qui emprisonnent, qui écrasent l'être humain, leurs adeptes. C'est le cas, par exemple, des règles religieuses, des scribes, des pharisiens qui imposaient un fardeau important pesant sur le peuple d'Israël au temps de Jésus. Et Jésus va leur reprocher cela. C'est aussi le cas de certaines religions qui écrasent de nos temps leurs adeptes au point même de les envoyer directement à la mort pour satisfaire aux exigences permettant d'espérer au salut. Je pense ici, bien entendu, à la théologie salafiste djihadiste qui impose à leurs adeptes de se sacrifier humainement dans le djihad militaire. Les commandements de notre Seigneur sont légers. Ils nous révèlent la volonté bonne et agréable, parfaite de notre Père pour nous. Oui, ils sont là pour nous révéler le plan de bonheur et non de malheur que Dieu a formé sur son peuple. Ils sont là, les commandements de Dieu, pour nous conduire dans cet avenir plein d'espérance que Dieu a en réserve pour ses enfants. Voilà pourquoi le psalmiste écrit au psaume 19, « La loi du Seigneur est parfaite, elle restaure la vie, le témoignage du Seigneur est sûr, il rend sage le naïf. Les directives du Seigneur sont droites, elles réjouissent le cœur. Le commandement du Seigneur est limpide, il fait briller les yeux. Les règles du Seigneur sont vérité, elles sont toutes justes. Elles sont plus précieuses que l'or, que beaucoup d'or fin, plus douces que le miel, le miel qui coule des rayons. Tel est le jugement du psalmiste sur les commandements, sur la parole de Dieu. Nombreux les textes de la Bible qui vont exactement dans ce sens et qui indiquent que la parole de Dieu est loin d'être un fardeau pour écraser l'être humain. Certes, la parole de Dieu, le commandement de Dieu est exigeant. Certes, la parole de Dieu est exigeante, mais cette exigence est là pour nous permettre justement de vivre le bonheur que Dieu veut nous offrir. Notre nature de pécheur, notre nature pécheresse, nous pousse en effet à nous éloigner du commandement de Dieu en essayant de nous faire croire qu'ils vont nous priver de bonnes choses, de la vie. Mais cela n'est qu'un mensonge à la lumière de la Bible, justement à la lumière de la révélation de Dieu, de Créateur, pour sa créature que nous sommes, ces créatures que nous sommes. C'est un mensonge qui vient de notre nature, bien sûr, pécheresse, ou encore c'est un mensonge qui vient de l'ennemi, de nos âmes, qui fait tout pour nous séduire et pour nous détourner du commandement de Dieu, comme il avait fait pour Adam et Ève. Il essaie de déguiser donc tout un mensonge pour nous détourner du commandement de Dieu et nous faire croire que l'herbe est plus verte en dehors du commandement de Dieu. Bien sûr, l'histoire d'Ève, Adam et Ève dans Genèse 3 nous apprennent que l'herbe finalement n'est pas plus verte ailleurs que dans l'obéissance au commandement de Dieu, dans la présence de Dieu. Mais nous qui sommes nés en effet de nouveau, qui sommes nés de Dieu, nous savons que la victoire sur la séduction du monde et le pouvoir du péché, nous avons la victoire sur la séduction du monde et le pouvoir du péché parce que tout ce qui est né de Dieu est vainqueur du monde, écrit Jean au chapitre 4, au verset 4. La nouvelle naissance est un événement surnaturel qui nous arrache justement à cette sphère du monde, la sphère du monde où règne Satan pour nous induire dans la famille de Dieu. Oui, la nouvelle naissance nous introduit dans la famille de Dieu et nous arrache à cette sphère du monde sur laquelle Satan continue à exercer sa tyrannie. Nous avons été délivrés de la domination des ténèbres et transportés dans son royaume, le royaume du Fils bien-aimé de Dieu, Colossiens 1. Le bonheur, le vrai, se vit en effet dans l'obéissance du commandement de Dieu. L'homme qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur est qualifié d'un homme heureux, d'un homme bienheureux, c'est le psaume 1. Voilà pourquoi Jean nous dit clairement que ces commandements ne sont pas un fardeau. Une fois dans le Seigneur, nous apprenons à prendre plaisir à la parole de Dieu. Nous comprenons aussi le bienfait de ce commandement de Dieu et nous réalisons petit à petit que le commandement de Dieu, au contraire, n'est pas là pour nous priver, mais pour nous permettre de vivre pleinement et joyeusement la vie que Dieu veut nous offrir. Il est vrai que vivre selon la parole de Dieu n'est pas toujours chose facile, mais la grâce de Dieu est là, elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux désirs de ce monde pour que nous vivions dans le temps présent, avec réserve, justice, piété, en attendant la bienheureuse espérance de la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ, comme l'écrit l'apôtre Paul dans l'épître à Tite, au chapitre 2. C'est ainsi que nous progressons de jour en jour dans cette vie de plus en plus libre, une vie libre de péché, car quiconque commet le péché est esclave de péché. Et c'est illusoire de penser que nous sommes libres alors que nous vivons sous la domination du péché. Mais le Fils de Dieu est venu justement pour nous rendre libres, réellement libres, vivre des hommes en vivant en tant qu'homme-femme selon le Seigneur. J'en termine notre passage en revenant à la foi qui nous donne de vivre justement la victoire en Jésus-Christ, la victoire dont nous devons jouir autant que chrétien. Cette victoire est sur le monde. Jean utilise le terme monde pour décrire tout ce qui s'oppose à Dieu ou encore rendre difficile l'obéissance au commandement de Dieu. Ces résistances s'expriment de plusieurs manières, sur plusieurs registres, et dans les chapitres précédents, Jean a évoqué certaines oppositions auxquelles les chrétiens, nous faisons face au temps que chrétien. Au chapitre 2, il est question des mauvais désirs qui animent l'homme livré à lui-même, la soif de posséder, ce qui altère les regards, l'orgueil qu'inspire les biens matériels. Tout cela, la foi en Jésus nous fait triompher de tout cela, de toutes ces choses, même si cela, souvent, c'est au prix d'un vrai combat interne à notre intérieur, au fond de nous-mêmes, à cause de notre nature pécheresse qui est toujours là, parce que nous vivons toujours dans un monde où le diable continue à agir. L'opposition du monde peut aussi prendre la forme d'enseignements hérétiques, mauvais enseignements, d'un enseignement hérétique qui s'attache à la foi, donc qui s'attaque, pardon, à la foi fidèle à l'Évangile. Et c'est le cas de ces faux enseignants dont il était question au chapitre 4, qui rejetaient le fait que Jésus-Christ, venu en chair, soit le même, le Christ venu, existant de toute l'éternité, venu en chair et a été jusqu'à la croix ressuscité. Là aussi, la foi en Jésus-Christ fait triompher de l'erreur et de l'hérésie. Elle nous permet de rester fidèles au Seigneur malgré toutes ces séductions intellectuelles que nous pouvons rencontrer dans notre cheminement. Enfin, l'opposition du monde peut aussi prendre la forme physique et une forme violente, c'est-à-dire la persécution. Hélas, les chrétiens de tous les temps ont dû faire face à cette forme d'opposition et de violence. La persécution a commencé très tôt dans la vie des chrétiens. Et le livre des Actes des Apôtres nous rapporte déjà que les premiers chrétiens étaient persécutés par les autorités religieuses juives de leur temps. Par la suite, les chrétiens ont connu aussi des persécutions de la part des autorités romaines. En l'an 64, par exemple, l'empereur Néron a accusé les chrétiens d'être responsables de l'incendie qui a ravagé Rome cette année-là. Et si Néron a choisi d'accuser les chrétiens et de prendre les chrétiens, en tout cas, pour un bouc émissaire, parce qu'ils étaient mal vus par la population. La population considérait que la crise que vivait le royaume en ce temps-là n'est autre que la punition des dieux contre ces chrétiens qui adorent le seul vrai Dieu, Jésus-Christ. Et par conséquent, les chrétiens étaient mal vus. Et sur cette base-là, donc, Néron n'a pas hésité à persécuter les chrétiens. Quelques années plus tard, c'est-à-dire en l'an 81 précisément, avec l'arrivée de Domitien, c'est exactement pareil. La persécution frappe à nouveau les chrétiens. Et cela continue. On se rappelle à la fin du IIe siècle, dans son apologétique, Tertullien laisse une phrase qui va devenir célèbre, en particulier dans le cœur et la vie des personnes persécutées. Le sang des martyrs est une semence des chrétiens. De nos jours, nombreux aussi les frères et sœurs qui rencontrent cette opposition du monde, qui sont persécutés à cause de leur foi chrétienne. À la réunion d'études bibliques, jeudi dernier, notre frère Jude nous rappelait, attirait notre attention, que 8000 chrétiens indonésiens étaient obligés de fuir leur domicile cette semaine à cause des persécutions de la part des djihadistes islamistes. C'est une information aussi qui a été donnée par le fil rouge des portes ouvertes. Mais là encore, Jean nous dit que la foi en Jésus-Christ ne fait triompher de la persécution. Le Seigneur accorde une grâce toute particulière permettant de faire face à ces moments difficiles, à ces moments exigeants. Le Seigneur n'abandonne pas ses enfants, on n'abandonne pas ses enfants, ne livre pas ses enfants à la folie humaine, à la folie de la haine. Il les assiste même face à ces moments difficiles. Qui est vainqueur du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? La foi en Jésus-Christ nous donne de vivre une réelle victoire contre toutes ces oppositions, une victoire qui se manifestera pleinement, totalement, lorsque notre Seigneur Jésus reviendra pour instaurer la nouvelle terre, les nouveaux cieux, où toutes ces oppositions n'auront plus droit de cité. Mais en attendant cette réalité future, nous devons continuer à vivre notre croissance spirituelle suite à notre naissance, nouvelle naissance ou naissance en Jésus-Christ. Oui, une nouvelle naissance qui nous conduit à une foi réelle dans le Fils de Dieu, à un amour vrai envers Dieu et envers les frères et sœurs et une obéissance concrète au commandement de Dieu. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, Jean nous invite ici, dans ces versets que nous venons de méditer, que nous avons médité, à aimer Dieu et les frères qui sont frères et sœurs, membres de cette famille que nous formons, obéir aux commandements de Dieu par lesquels Dieu veut nous bénir et veut nous accorder de vivre dans un vrai bonheur en perspective, en prémisse de ce que nous vivrons éternellement auprès de lui et pour toujours, et à triompher des oppositions diverses et variées que nous pouvons rencontrer à cause de notre foi. Nous devons savoir que le Seigneur ne nous laisse pas seuls, il ne nous laisse pas orphelins, il est un Père aimant pour nous et présent en nous, avec nous, par son Esprit Saint. Après nous avoir engendrés en Jésus-Christ, notre Père Céleste continue à nous accompagner dans notre croissance spirituelle pour nous façonner à l'image de son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Qu'il nous donne la grâce de marcher avec lui par la foi, dans l'amour et dans l'obéissance. Amen.